Dans le passé, le Seigneur a couvert de honte le territoire de Zabulon et celui de Nephtali. Mais dans l'avenir, il couvrira d'honneur la route qui suit la mer, la région à l'est du fleuve du Jourdain et la Galilée, région des étrangers. Le peuple qui marche dans la nuit voit une grande lumière. Pour ceux qui vivent dans le pays de l'obscurité, une lumière se met à briller. Seigneur, tu les inondes de bonheur, tu fais grandir leur joie et ils se réjouissent devant toi. Comme on se réjouit en faisant des récoltes, comme on crie de joie en partageant les richesses des ennemis vaincus. Oui, tu arraches ton peuple au pouvoir qui pèse sur lui, le bâton qui blesse ses épaules, le fouet qui le frappe, tu les brises comme tu l'as fait le jour où tu as vaincu les Madianites. Et puis le texte de l'évangile de ce jour, qui sera celui de notre méditation, dans l'évangile selon Matthieu au chapitre 4, les versets 17 à 23. À partir de ce moment, Jésus se met à annoncer « Changez votre vie. Oui, le royaume des cieux est tout près de vous. » Jésus marche au bord du lac de Galilée. Il voit deux frères, Simon, qu'on appelle Pierre, et André, son frère. Ce sont des pêcheurs et ils sont en train de jeter un filet dans le lac. Jésus leur dit « Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissent leur filet et ils suivent Jésus. En allant un peu plus loin, Jésus voit deux autres frères, Jacques et Jean, les fils de Zébédée. Ils sont dans la barque avec leur père Zébédée. Ils réparent leur filet. Jésus les appelle. Aussitôt, ils laissent leur barque et leur père et ils suivent Jésus. Jésus va dans toute la Galilée. Il enseigne dans les maisons de prière juives. Il annonce la bonne nouvelle du royaume. Il guérit les gens de leurs maladies et de toutes leurs douleurs. Je vous invite à prier. Tu es le Maître et nous sommes les disciples comme les premiers que tu as rencontrés. C'est de toi que nous recevons les paroles qui nous aident à vivre. Pas toujours facile à comprendre, pas toujours facile à mettre en pratique, mais avec l'aide de ton Esprit, Seigneur, tu nous permets de cheminer avec cette parole. Amen. Et je vous invite à chanter à nouveau le cantique numéro 232. 232.
Ta parole se donne comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Ta parole est murmure comme un secret d'amour, ta parole est blessure qui nous ouvre le jour. Comme un souffle fragile, ta parole se donne, comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Ta parole est naissance, comme on sort de prison, ta parole est semence qui promet la moisson. Comme Comme un souffle fragile, ta parole se donne. Comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Ta parole est partage, comme on coupe du pain. Ta parole est passage, qui nous dit un chemin. Comme un souffle fragile, ta parole se donne. Comme un souffle d'argile, ton amour nous façonne.
Jésus n'a jamais été un solitaire dans son ministère. Il a toujours travaillé en équipe. Et les quatre évangiles nous racontent cet épisode de l'appel des disciples, marquant par là l'importance de la collaboration de Jésus avec ses quelques Galiléens. Il y a beaucoup d'autres épisodes qui sont racontés par l'un ou l'autre des évangélistes, mais celui-là est raconté par les quatre. Il nous donne ainsi un modèle de collaboration dans l'Église. Un des éléments qui me frappe dans ce récit, qui est donc pourtant répété quatre fois dans le Nouveau Testament, est sa brièveté et l'absence de détails qui pourraient qualifier les états d'âme des disciples et de leurs familles, de leurs collègues ou amis, bref, de tous les gens dont on parle dans le texte. Et aucun des quatre évangélistes ne déroge à cette règle. Aucun détail ne permet de disserter sur la joie de la réponse à l'appel de Jésus ou, au contraire, sur la tristesse de laisser les siens pour partir sur les routes à la suite de ce Messie, ou encore sur les problèmes liés à l'abandon de leur gagne-pain, leur métier de pêcheur en l'occurrence. Il n'y a rien de tout cela. Peut-être parce que ce qui est important ici, ce ne sont pas les détails, ce n'est pas la description de ce qui se passe, mais ce sont les verbes. Et là, les quatre textes reprennent les mêmes verbes. Ce qui était d'ailleurs le propre de l'hébreu ou de l'araméen, la langue parlée par Jésus. Et cette importance des verbes s'explique par le fait que ce sont les verbes qui décrivent le mouvement, qui décrivent ce qui se passe. Or, le sens de cette anecdote est à chercher dans un mouvement. Les détails et les qualificatifs que l'on pourrait ajouter, comme on sait très bien le faire dans la littérature française, n'apporteraient pas grand-chose, en fait, et même atténueraient peut-être cette importance du mouvement. Et parmi ces verbes, il y en a quatre que je voudrais souligner. Il y a le verbe « appeler », le verbe « suivre », le verbe « faire devenir » et puis le verbe « abandonner » ou « laisser ». Appeler, donc. Appeler, c'est le verbe qui donne le ton. Même si dans notre texte, il n'est pas le premier de la liste. Dans les autres évangélistes l'ont souvent mis en premier, mais dans notre texte, il n'est pas le premier. Il donne le ton car il exprime la manière dont se noue la relation entre le maître et ses disciples. C'est celui qui appelle qui prend l'initiative. Ce n'est pas qu'un jour les disciples se sont intéressés à Jésus et sont allés le voir, lui dire « Tiens, ce que tu fais est bien, est-ce qu'on peut venir avec toi ?» Non, ils ont été appelés. Et appeler en grec, c'est le mot qui a donné Église, littéralement, faisant de celle-ci l'assemblée des appelés. Et ainsi, par là, au tout début de l'Évangile, est déjà posée la manière dont Jésus s'y prend pour regrouper les siens, pour regrouper son peuple. Il appelle. Il survient dans la vie d'hommes et de femmes, non pas à la synagogue, dans les maisons de prière ou au temple, mais au bord du lac, sur leur lieu de travail. Il survient sans prévenir au cœur de leur occupation professionnelle principale et il les appelle. Il aurait pu attendre de les rencontrer dans un coin tranquille, lors d'une pause ou au moins au moment du repas. Mais non, c'est sur le lieu de leur activité, exactement là où ils avaient autre chose à faire que penser aux questions religieuses, que Jésus les rejoint et les appelle. Il les appelle là où est leur vie. Il n'a pas besoin de dispositions religieuses préalables. Mais à partir du moment où il les appelle, la destinée de ces hommes change radicalement. L'appel va donner une autre direction à leur vie. Et autour de ce verbe « appeler », je voudrais encore faire remarquer que l'Église, l'Assemblée des appelés, n'est pas comparable à une association de gens religieux qui s'organiserait en élisant donc un chef, un président ou en se choisissant un pasteur. L'initiative qui met ce peuple en route vient de l'extérieur, de celui qui appelle. Et cela a, ou devrait avoir en tout cas, de nombreuses et importantes conséquences quant à la manière très concrète dont nous organisons l'Église. Dans l'histoire, ça n'a pas toujours été le cas, mais bon, on fait ce qu'on peut. Puis, il y a le deuxième verbe, le verbe « suivre », qui est répété plusieurs fois. L'appel amorce tout de suite une mise en route, un départ, un mouvement. Ce qu'il est important de souligner, c'est que Pierre, André, Jacques et Jean ne partent pas vers un but précis. Ils ne vont pas vers une éventuelle terre promise comme Abraham ou Moïse, ni vers une société meilleure, ni pour constituer un groupe de défense des valeurs morales ou je ne sais trop quoi, comme on en voit aujourd'hui. En fait, ils ne savent pas où ils vont. Ils suivent quelqu'un, pas un but. Quelqu'un en qui ils ont accepté de faire confiance. Il y a quelque chose qui s'est passé qui est fait qu'ils ont fait confiance en cet homme-là et c'est lui qu'ils suivent. Et ça aussi, on devrait s'en souvenir quand dans l'Église, on veut toujours avoir des buts, des projets, des objectifs. C'est une personne qu'ils suivent et que nous devons suivre, pas un but. Toutefois, ce verbe de suivre n'a de sens que s'il est lu à la lumière du suivant, là aussi que les quatre évangélistes reprennent « Je vous ferai devenir » ou « Je ferai de vous », qui est la même chose, des pêcheurs d'hommes. L'appel à suivre est mis immédiatement en relation avec le service. Jésus ne dit pas « Suivez-moi et vous serez sauvés, vous serez du bon côté », ce qu'on a entendu maintes fois dans certaines réunions d'évangélisation. Mais il dit, si vous y êtes attentif, « Suivez-moi et vous sauverez les autres ». Il n'y a pas de séparation entre l'appel et la mission à accomplir. « Suivez-moi et vous serez missionnaire », il leur dit en d'autres termes. Personne n'est appelé sans mission. Et justement, l'erreur d'Israël dans l'Ancien Testament avait été de croire qu'être le peuple élu suffisait alors qu'il était élu, c'est-à-dire appelé pour les autres. Et dès le début de son ministère, donc, Jésus montre par là que l'Église n'est Église qu'en mouvement vers les autres. Le « suis-moi » n'est pas séparable du « je ferai de toi un pécheur d'homme ». Le dernier de ces verbes desquels nous essayons de suivre le mouvement, est le verbe laisser, abandonner. Les premiers abandonnent leur filet, les seconds abandonnent leur père et leur barque, bon, aussi les filets qui étaient dans la barque, certainement, mais en tout cas, ce qui nous est dit, c'est qu'ils abandonnent leur père et la barque. Le travail et la famille, deux valeurs dont on connaît pourtant l'importance pour la plupart des sociétés humaines, et deux valeurs que l'Église a aussi bien souvent mis tout en haut de son échelle des valeurs. L'Évangile commence donc par une exigence de renoncement, ce qui n'apparaît pas a priori comme une bonne nouvelle, car en effet ce mot de renoncement est particulièrement ambigu et il n'a pas, il faut dire, une très bonne presse, surtout chez les protestants. On pense tous, pour les catholiques ça va, quoi, il y a le renoncement, mais les protestants n'aiment pas bien ça, hein. Et il évoque pour nous une espèce de mortification du cœur et du corps, il a même la saveur de la mort un peu, et rappelle ces spiritualités du passé pour lesquelles le renoncement et la mortification étaient le prix à payer pour le salut, tous ceux contre quoi des Luther, par exemple, ou Calvin se sont battus. Renoncer faisait partie de l'exigence des lois morales et religieuses, et comme par hasard, à l'époque, c'est à ceux qui nous faisaient plaisir, le plus plaisir, qu'on nous demandait de renoncer. Alors on comprend que ça ait gardé cette connotation un peu négative. On a l'impression que dès que quelque chose faisait du bien, on dit, il faut renoncer à ça. Mais dans l'Évangile, ce n'est pas de ce renoncement-là dont il est question. Le renoncement auquel Jésus invite est ce mouvement qui me décentre de moi-même pour me tourner vers les autres et vers Dieu. C'est ce qui me dépréoccupe de moi, de mes problèmes, qui sont pourtant vrais, pour que je puisse mieux me préoccuper des autres. Il nous arrive d'être tellement centrés sur nos vies, nos problèmes, que nous ne voyons plus ni les autres, ni Dieu d'ailleurs. Ou alors en tout cas, on veut bien voir Dieu à condition qu'il soit là pour résoudre nos problèmes à nous. Et on ne voit plus même les grands problèmes de l'humanité. La bonne nouvelle, c'est que Jésus libère ceux qui le suivent pour leur donner la possibilité, la grâce, de renoncer à cela pour vivre pleinement. Ce renoncement est détachement, justement, de ce qui nous empêche d'aller de l'avant dans la vie, dans cette vie à laquelle nous sommes appelés, cette vie à vivre pleinement. Et il arrive, comme ce fut le cas pour les disciples de Jésus, que ce soit des valeurs comme le travail ou la famille qui nous empêchent d'aller de l'avant. Mais ce peut être tout autre chose. Il y a beaucoup d'autres choses. Mais ce qui est intéressant, c'est que Jésus ait pris ces valeurs que par ailleurs il défend. Ce renoncement est la condition même de la vie. Jésus donne à Pierre et André le pouvoir de renoncer à leur travail, non pas pour ne rien faire, mais pour faire différemment, pour pécher différemment, pour faire autre chose de plus épanouissant pour eux et pour les autres. Il donne à Jacques et Jean de laisser leur père, non pas pour le rejeter, mais pour vivre différemment leur relation à lui. La seule présence de Jésus change tout. Les relations de travail, les relations familiales, etc. Suivre Jésus, donc, parce qu'appelé par lui, être transformé de pécheur en pécheur d'homme, enfin, de pécheur, pas dans le sens moral, hein, celui qui pêche, en pécheur d'homme, abandonner ses filets ou son père, quelques versets qui tracent pour nous aussi le chemin d'une spiritualité exigeante, mais libératrice et porteuse de vie. Ce chemin, ouvert par ses quatre disciples, beaucoup l'ont suivi depuis, et aujourd'hui encore, il s'ouvre à nous, le peuple des appelés, l'Église. Amen.